à tous ceux qui ont participé à la début de cette à la début, ça commence mal. Au début de cette journée, merci à David d'avoir prié pour nous. L'année dernière, parmi les participants au camp à fond la forme, parmi les participants auxquels vous participez cette année, il y avait un étudiant qui s'appelait Sofal, et dont certains d'entre vous se souviennent peut-être. Cette année, Sofal n'est pas là. En fait, Sofal est mort. Le 7 août dernier, dans un tragique accident de moto au Cambodge, dans le cadre d'un stage qu'il faisait dans un hôpital. J'avais appris à connaître Sofal cette année au GBU de Lyon. Il avait fréquenté le GBU. Samuel, Sam 3, Sam Pat le connaissait beaucoup mieux que moi. Il serait beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais c'était un garçon gentil, Sofal. Doux, très discret, et qui servait le Seigneur très fidèlement dans son église à Lyon. Pourquoi lui ? Que dire à sa famille ? Nous avons été à son enterrement avec Laetitia, Sam, quelques autres étudiants de Lyon. Que dire à sa famille qui souffre terriblement et qui pleure aujourd'hui sa mort ? Qu'est-ce que vous lui aurez dit ? Ou lui auriez dit ? Pour la réconforter. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, mais que dire à ceux qui pleurent ? La mort d'un ami, d'un frère, d'un fils, à ceux qui souffrent physiquement alors qu'ils n'ont apparemment strictement rien fait pour mériter ça. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les consoler, pour les réconforter ? Qu'est-ce qu'il faut ne surtout pas leur dire ? Comme nous l'avons vu hier, Job est un homme qui a tout perdu, vous vous rappelez ? Nous l'avons lu dans le prologue, ses biens, ses enfants, sa santé, alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça. C'était la dernière de nos informations importantes à retenir. C'est un homme innocent, juste aux yeux de Dieu, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal, vous vous rappelez ? Job est donc un homme qui souffre, mais qui dans son malheur a des amis qui viennent le consoler. Et si vous avez lu le livre de Job, vous avez peut-être fait connaissance avec ses amis, qui sont Eliphaz, Tsophar et Bildad, les trois amis de Job, qui viennent donc le consoler. Le problème, c'est que Job est vraiment inconsolable. C'est un homme broyé par la douleur, qui après avoir fait d'une aptitude mais remarquable, vous vous rappelez ? Extraordinaire, exemplaire, jobesque, entre guillemets. C'est un homme qui, après avoir fait preuve d'une attitude remarquable, commence à craquer. Vraiment à craquer. Au chapitre 3, que nous n'allons pas avoir le temps de lire, malheureusement, Job a commencé à se plaindre, à se lamenter. Il trouve la vie insupportable, la mort désirable, et va commencer, écoutez bien, à contester la façon dont Dieu fait son job. La façon dont Dieu gère le monde. Est-ce qu'on pourrait lire ensemble quelques versets du chapitre 3 ? Job, chapitre 3, des versets 20 à 23, simplement, pour nous donner un peu une idée. Des propos de Job. Job, chapitre 3, versets 20 à 23. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort ? Et la recherche plus qu'un trésor, qui se réjouirait tout heureux et ravi s'il trouvait le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. Vous sentez un léger reproche dans les mots de Job, dans les questions qu'il pose à Dieu, dans ses pourquoi ? Pourquoi ? Et là, une question se pose. Qu'est-ce qu'Eliphaz, Bildad et Tsophar ? Qu'est-ce que les amis de Job vont dire à leur ami qui souffrent ? Quel va être leur comportement ? C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Que penser du raisonnement qu'ils vont développer pour expliquer les raisons pour lesquelles Job souffre ? Quels sont leurs égarements ? C'est ce que je vous propose de voir ce matin. D'accord ? Premièrement, le comportement des amis de Job. Deuxièmement, leur raisonnement. troisièmement, leurs égarements. Et en fait, c'est ce que je vous propose de faire ce matin en prenant l'avion. Je ne sais pas si vous avez pris l'avion récemment. Je l'ai pris pour aller en Australie. Pourquoi prendre l'avion ? Parce que nous allons faire un survol des chapitres 4 à 27. Je sais que c'est un projet qui peut paraître ambitieux. 24 chapitres en 25-30 minutes, ça fait presque une minute par chapitre. Mais comme disait Marcel Proust, écoutez ce qu'il disait Proust, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Profitons donc de cette occasion. Premièrement, comme il est écrit dans vos livrets, le comportement des amis de Job. Le comportement des amis de Job. Si vous avez lu Job, vous avez peut-être eu l'impression, peut-être, que leur comportement était invariablement rigide et borné du début, c'est-à-dire du chapitre 3, à la fin, c'est-à-dire soit au chapitre 27 ou au chapitre 31. Mais j'aimerais vous montrer ce matin que ce n'est peut-être pas le cas, que leur comportement, que leur attitude n'est finalement pas si rigide et borné que ça du début à la fin. En fait, je vous propose même de découvrir que leur comportement évolue, progresse au fur et à mesure des dialogues et en fonction des réactions de Job. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire un survol des chapitres 4 à 27, trois cycles de discours, vous vous rappelez ? Un premier cycle, intervention d'un ami de Job, réponse de Job, intervention d'un ami de Job, réponse de Job, intervention d'un ami de Job, réponse de Job. Deuxième cycle de discours, on prend les mêmes et on recommence, d'accord ? Troisième cycle, à partir du chapitre 22, on prend presque les mêmes et on recommence pas tout à fait la même chose, parce que ce cycle est interrompu au chapitre 28. La première évolution que j'aimerais que nous notions, c'est celle-ci, de la compassion à l'encouragement, d'accord ? De la compassion à l'encouragement. Regardez, c'est quand même un phénomène très étrange et très intéressant. Job, chapitre 2, versets 11 et 12, même jusqu'au verset 13. La suite et la fin du prologue. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Suach et de Tsophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Il se mit alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui sans lui dire un mot car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Vous voyez que dans un premier temps, les amis de Job font vraiment preuve d'une grande compassion. Ils se concertent pour aller voir Job, ils vont le voir, ils ne le reconnaissent pas, Job est peut-être défiguré par la souffrance, il souffre physiquement, et que font-ils ? Ils pleurent, ils restent avec lui 7 jours et 7 nuits sans rien dire, ce qui est peut-être la meilleure chose à faire vis-à-vis de quelqu'un qui souffre. Mais dans le premier cycle de discours, des chapitres 4 à 14, un phénomène très intéressant va se produire, cette compassion va se transformer progressivement en encouragement. Encouragement dû à la prospérité que Job, un homme juste, un homme intègre et droit, va retrouver forcément. Regardez ce que dit Éliphaz, pour entrer dans le vif du sujet. Éliphaz, le premier ami de Job, qui intervient au chapitre 4. Je vous propose de lire simplement les 7 premiers versets. Éliphaz, chapitre 4, versets 1 à 7. Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu ? Mais comment serait-il possible de garder le silence ? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu as battu. Maintenant que tu as atteint, tu es bouleversé. » Verset 6 « Ta crainte de Dieu ne devrait pas être ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ton conduite ? Cherche donc dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort ? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits ? » Autrement dit, Job, courage, courage. Tu n'as absolument aucune raison de désespérer, Job. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu es un homme intègre et droit. Tu es un homme juste aux yeux de Dieu. Et ton intégrité est ton espérance. Autrement dit, courage, persévère dans ton intégrité. Fais confiance à Dieu, qui ne fait jamais, jamais mourir l'innocent. Courage, Job. Regardez ce que dit Bildad, chapitre 8, des versets 5 à 7. Job chapitre 8, versets 5 à 7. « Mais toi, Job, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, Dieu. Il restaurera le domaine qui abritera ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. » Vous avez vu ce que dit Bildad ? Courage, Job, vraiment, je t'encourage. Ne désespère pas, demande à Dieu de t'aider. Implore sa grâce, fais-lui confiance. Si tu es juste, tu n'as aucune raison de désespérer. Dieu restaurera ton bonheur et ta prospérité. Tsophar, chapitre 11, versets 13 à 19. Tsophar, le troisième ami de Job. Chapitre 11, versets 13 à 19. « Quant à toi, Job, si tu changes d'attitude et si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire... » C'est vrai que Tsophar est peut-être moins convaincu que ses autres amis de l'innocence de Job. C'est vrai. Je continue au verset 14. « Si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches. Tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances. Tu ne t'en souviendras pas plus que l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. » C'est vrai que Tsophar est peut-être moins convaincu que ses autres amis de l'innocence de Job. Mais quand même, son discours est vraiment placé sous le signe de l'encouragement. Courage, Job, si tu t'éloignes de mal, si tu t'évertues à faire le bien, tu retrouveras la prospérité et le bonheur. D'accord ? Première évolution de la compassion à l'encouragement. Mais Job refuse les encouragements de ses amis. Il les traite même de médecins sans frontières. Mais sans valeur, c'est ce qu'il dira au chapitre 13 et au verset 4. Il continue à se plaindre sur sa lancée du chapitre 3 et commence à faire preuve d'une certaine, d'une certaine véhémence, d'une certaine virulence dans ses propos. Et vous voyez cette réaction de Job qui commence à faire preuve d'une certaine virulence, d'une certaine véhémence, amène ses amis dans le deuxième cycle de discours, des chapitres 15 à 21, à passer de l'encouragement à l'avertissement. D'accord ? Regardez ce qu'a dit Eliphaz encore, chapitre 15, juste les versets 11 et 13 pour commencer. Deuxième cycle de discours, Job, chapitre 15, versets 11 et 13. « Job, considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur ? Où ton cœur t'entraîne-t-il ? Et que signifie ce clignement des yeux ? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. » Et puis un peu plus bas, des versets 17 à 20, je vais te parler, écoute-moi, je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé après l'avoir appris de leurs ancêtres. Le pays leur appartenait alors à eux seuls et aucun étranger n'était encore venu se mêler à eux. Verset 20, le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. Autrement dit, attention Job. Attention, fais bien attention, tu commences à manquer de respect envers Dieu dans la façon dont tu parles. Je t'avertis, est-ce que tu sais le sort qui est réservé à ceux qui parlent comme ça ? Est-ce que tu sais ? Et c'est pour ça qu'au verset 20, Eliphaz est en train de décrire le sort des méchants, quoi, et leur destinée. Nous n'allons pas lire ce que disent Bildad et Tsophar, mais en substance, au chapitre 18 et au verset 20, si vous voulez prendre des références, chapitre 18, des versets 5 à 21, chapitre 20, des versets 4 à 11, Bildad et Tsophar se livrent à la même description du sort des méchants. De l'encouragement à l'avertissement. C'est bon pour l'instant ? De la compassion à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement. Mais Job ne se sent pas du tout concerné par l'avertissement de ses amis. Il clame son innocence, il n'a rien fait pour mériter ça. Il est innocent. Il continue à se plaindre et commence à faire de plus en plus de reproches à Dieu. Regardez ce que dit Job, un passage, encore une fois, que nous n'aurons pas le temps de lire dans les détails. Je vous propose de lire simplement les versets 1 à 12. Du chapitre 19, excusez-moi. Chapitre 19. Job 19, c'est donc la réponse, de Job. dans le deuxième cycle de discours. Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours ?» Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière ? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route, c'est de Dieu dont je parle là, hein, et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres, il m'a dépouillé de ma gloire, il a retiré la couronne de ma tête, il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse. Elles ont construit une roue jusqu'à moi. Elles ont installé leur camp autour de ma tente. Et vous voyez cette réaction de Job qui commence à pousser Mémé dans les orties, à pousser Mémé Dieu dans les orties, qui commence à parler de manière assez virulente, assez véhémente, va amener Eliphaz dans le dernier cycle de discours, a passé de l'avertissement à l'accusation ouverte. Regardez ce que dit Eliphaz. C'est très intéressant comme phénomène, non ? Vous ne trouvez pas ? Chapitre 22, des versets 5 à 10. Dernier cycle de discours. Chapitre 22, versets 5 à 10. « N'as-tu pas fait beaucoup de mal, Job ? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite ? En effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères. Tu privais de leur... habits ceux qui étaient presque nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé. Tu refusais du pain à l'homme affamé. La terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides. Les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. » Vous voyez ce que dit Eliphaz et le contraste saisissant avec la compassion du début, avec l'encouragement et l'avertissement. Job, tu es responsable de ce qui t'est arrivé. Ce qui est, comme vous le savez, comme nous le savons, totalement faux. Grâce au prologue, Job est un homme innocent, un homme intègre et droit, juste aux yeux de Dieu, qui n'a rien fait, strictement rien, pour mériter ça. Le comportement des amis de Job, c'est clair, cette progression de la compassion à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement et de l'avertissement à l'accusation ouverte contre Job, selon laquelle il souffre parce qu'il a péché. Selon laquelle il souffre parce qu'il a péché. Et ça nous amène à notre deuxième point. Après le comportement des amis de Job, je vous propose de voir leur raisonnement. Il me semble que le socle sur lequel le comportement des amis de Job évolue, il me semble que le raisonnement sur lequel repose toute leur argumentation, au moins à partir du chapitre 4, n'est autre que ce que nous appelons le principe ou la théologie de la rétribution. Principe selon lequel Dieu agit envers les êtres humains, envers vous, envers moi, envers tout le monde, en fonction de leur comportement, en fonction de leur attitude. Autrement dit, toute épreuve, toute souffrance dans la vie est la conséquence directe d'une faute particulière. Dieu récompense ceux qui font le bien et punit ceux qui font le mal. Il ne peut pas infliger un châtiment immérité à un innocent. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas infliger un châtiment immérité à un innocent. Regardez ce que dit Eliphaz. Retour au chapitre 4, verset 7. Vous l'avez peut-être remarqué. Eliphaz, chapitre 4, verset 7. Cherche donc dans ton souvenir, Job, quel est l'innocent qui est mort ? Où a-t-on vu disparaître les hommes droits ? Nulle part, c'est une question rhétorique, tout le monde le sait bien. Là, Eliphaz est en train d'établir le principe de rétribution de manière implicite. Les innocents ne meurent pas. Les hommes droits ne disparaissent pas. Regardez ce que dit Bildad au chapitre 8, des versets 3 à 4, juste deux petits versets. Si tes fils ont péché contre lui, c'est-à-dire contre Dieu, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Vous voyez le lien direct. Tes fils ont péché, par conséquent, il les livre à la conséquence de leur acte. C'est simple. Tsophar, chapitre 11, des versets 5 à 11. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révéler les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Là, le principe de rétribution est peut-être moins implicite, c'est vrai, dans les paroles de Tsophar, mais je pense qu'il dit que Dieu est juste et qu'il connaît les fautes des hommes qu'il punit. Et la logique de ce raisonnement, de ce principe de rétribution, est tellement implacable que Job lui-même, qui est un peu écartelé entre deux conceptions de Dieu, entre d'un côté la foi en un Dieu juste et la remise en question de sa justice, que Job lui-même semble partager la conviction de ses amis. Regardez ce qu'il dit au chapitre 13, des versets 20 à 28, le pauvre Job. « Seulement, dit Dieu, accorde-moi deux faveurs et je ne me cacherai pas loin de toi. » Chapitre 13, versets 20 à 28. « Éloigne ta main de moi et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle et moi je répondrai. Ou alors je parlerai et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères, tu m'as fait payer les fautes de ma jeunesse. » Voyez comment Job est en train là de partager ce sentiment. « Tu mets mes pieds dans des entraves, tu surveilles tous mes mouvements, tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture comme un habit rongé par des mites. » Le raisonnement des amis de Job. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je vous propose dans un dernier temps d'évaluer ce raisonnement. Et c'est l'objet du troisième et du dernier point. Après le comportement des amis de Job, après leur raisonnement, leurs égarements. Je pense que les amis de Job, en toute humilité, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout cerné, mais je pense qu'il y a deux choses à dire. La première chose à dire, c'est qu'ils n'ont pas appliqué le principe de rétribution correctement. Ils n'ont pas appliqué le principe de rétribution correctement. Avant de prêcher sur les amis de Job, Jean Calvin, qui, comme Martin Luther, n'a plus besoin d'être présenté, vous le connaissez tous par cœur, Calvin, célèbre réformateur français, Calvin qui a fait une série de 159 prédications sur le livre de Job. 159, nous n'en ferons que 6 cette semaine. Estimez-vous heureux. Si vous aviez vécu à l'époque de Calvin, vous auriez eu droit à fond la forme 1500 et quelques, à 159 jours de camp à fond la forme. Pas mal, hein? Un peu plus de 6 mois. Avant de prêcher sur les propos des amis de Job, Calvin, qui a donc fait cette série de prédications, prenait toujours le soin, et c'est sage à mon avis, de préciser que la théologie des amis de Job était correcte en elle-même. Et quelque part ça se comprend, je vous cite par exemple Galates chapitre 6 verset 7, Paul dit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. D'une certaine manière, le principe de rétribution est correct en lui-même. Ce n'est pas un principe anti-biblique, c'est un principe correct en lui-même. Mais selon Calvin, qui avait vraiment l'art de la distinction, et c'est peut-être là son génie à Calvin, il estimait que même si ce principe était correct en lui-même, les amis de Job se sont trompés dans l'usage qu'ils en ont fait. Vous comprenez la distinction? Ils ont fait un mauvais usage de ce principe de rétribution. Dans quel sens? Peut-être premièrement, dans le sens où ils ont fait de ce principe de rétribution une règle absolue, qui s'applique de manière mécanique, immédiate, où et quand, ici et maintenant, dans la vie présente. Une loi impersonnelle, un peu équivalente, vous savez, au karma, qu'on retrouve dans les religions orientales, le cycle des causes et des conséquences dans la vie humaine. C'est peut-être le premier sens dans lequel ils ont mal appliqué ce principe, dans le sens où ils en ont fait une règle absolue, vous comprenez, qui s'applique de manière mécanique, immédiate, dans la vie présente. Mais peut-être, dans un deuxième temps, dans le sens où ils ont appliqué ce principe de rétribution au cas particulier de Job, qui n'est, comme vous le savez, pas du tout concerné, mais pas du tout concerné par ce principe. Grâce au prologue, nous savons pertinemment que Job est un homme innocent dont les souffrances ne sont en aucun cas la conséquence d'un péché spécifique. En tout cas, Dieu ne le dit pas, le texte ne le dit pas. Job est un homme innocent et droit, c'est ce que le texte dit. Premièrement donc, ils n'ont pas appliqué le principe de rétribution correctement. Et vous, si un jour vous vous retrouvez dans la peau des amis de Job, et peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans leur peau, qu'allez-vous dire à ceux qui souffrent et qui n'ont apparemment, je dis bien apparemment, rien fait, strictement rien pour mériter ça? Bien entendu, si les souffrances d'un ami que vous connaissez sont la conséquence directe d'une situation, comment dire, très compromettante, très problématique, dont nous avons parfaitement connaissance, je pense que nous avons le devoir, peut-être même la responsabilité, dans l'amour, d'encourager cette personne à changer d'attitude, d'accord ? Si nous sommes parfaitement conscients d'une situation compromettante. Je pense à une amie chrétienne, c'est très délicat, j'ai beaucoup hésité avant d'en parler, mais bon. Je pense à une amie chrétienne qui a beaucoup, beaucoup souffert de la relation qu'elle a entretenue avec un homme divorcé et père d'un enfant. Et malgré les encouragements répétés à ne plus fréquenter cet homme, elle a continué à passer du temps et des nuits avec lui. Et cette situation qui ne correspond pas à la volonté que Dieu nous a clairement révélée dans sa parole, cette situation vraiment très problématique, très compromettante, très difficile, a eu, comme vous pouvez l'imaginer, mais des conséquences dramatiques, absolument dramatiques, dont elle a beaucoup, beaucoup souffert dans sa vie personnelle, sociale et spirituelle. Vous voyez le genre de situation à laquelle je fais référence, d'accord ? Mais si nous ne savons rien, si nous ne sommes pas dans ce cas de figure qui est vraiment exceptionnel, si nous ne savons rien, ne disons rien, une présence silencieuse et compatissante est vraiment préférable, à mon avis, à une parole maladroite et accusatrice. Au lieu de soupçonner de péché ceux qui sont frappés par le malheur, pleurons plutôt avec eux. Pleurons avec eux de tout notre cœur. Pleurez avec ceux qui pleurent, dira Paul en Romains 12. Ça, c'est si nous sommes dans la peau des amis de Job. Mais si un jour vous vous retrouvez dans la peau de Job lui-même, si je me retrouve moi-même dans la peau de Job lui-même, soyons vraiment lucides, sachons discerner les dangers d'une mauvaise application de ce principe de rétribution, qui peut avoir des conséquences absolument dramatiques et qui peut nous faire culpabiliser pour rien. Pour rien. Et de manière complètement inutile. Nos souffrances ne sont pas nécessairement, et j'insiste sur le nécessairement, nos souffrances ne sont pas nécessairement les conséquences d'un péché spécifique. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les choses ne sont pas aussi simples. D'une part, si Dieu devait tenir compte de toutes mes fautes, de toutes nos fautes, qui vivrait ? Qui vivrait ? Personne. Absolument personne. Dieu ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. C'est ce que dit le psaume 103, le verset 10, si vous voulez prendre la référence, et le psaume 130, verset 3. Sinon, si Dieu devait tenir compte de toutes nos fautes, il nous punir en conséquence de toutes nos fautes, le monde et cette salle ressembleraient à un vaste cimetière. Nous ne serions plus là. Dieu ne tient pas compte de toutes nos fautes dans sa bienveillance, dans sa bonté. Et d'autre part, la réalité du monde dans lequel nous vivons témoigne que certaines personnes, et vous pensez peut-être à certaines personnes de votre entourage, la réalité du monde complexe et déchu dans lequel nous vivons témoigne que certaines personnes prospèrent alors qu'elles n'aient aucun respect pour Dieu, absolument aucun, et que d'autres, bien au contraire, souffrent alors qu'elles n'ont apparemment strictement rien fait pour mériter ça. Et Job en est la preuve vivante. L'égarement des amis de Job, leurs égarements. Premièrement, ils n'ont pas appliqué le principe de rétribution correctement. Deuxièmement, toujours dans le cadre de ce dernier point, ils n'ont pas parlé de Dieu correctement. Ils n'ont pas parlé de Dieu correctement. Et c'est la pensée sur laquelle j'aimerais terminer. Vous allez penser que j'y vais un peu fort en disant ça, mais ce jugement n'est pas du tout le mien. En fait, ce jugement, c'est celui de Dieu en personne. Regardez ce que dit Dieu au chapitre 42, des versets 7 à 8. C'est le début de la fin. L'épilogue du livre. C'est vraiment très intéressant ce que dit Dieu dans ce chapitre. dans ce chapitre 42 et au verset 7 à 8. Regardez ce que dit Dieu. Job chapitre 42, verset 7 à 8. Après avoir adressé ces paroles à Job, les paroles que nous verrons le dernier jour, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Verset 8. « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, mon serviteur encore, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. » En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. C'est hyper zarbi ce passage. C'est hyper bizarre quoi. Pourquoi Dieu est en train de dire ce qu'il dit dans ces versets? Je vous fais quand même remarquer, parce que je ne résiste pas à la tentation, je vous fais quand même remarquer la délicieuse ironie de Dieu dans ces versets. Regardez l'ironie. Dans ces versets, c'est l'arroseur arrosé. Les accusateurs se retrouvent au banc des accusés. Les amis de Job pensaient que Dieu était en colère contre Job. Dieu est en colère contre toi, Job. Repends-toi. En fait, incroyable, c'est le contraire. C'est le contraire. Dieu est en colère contre eux. Et Job va prier pour eux. C'est hallucinant. Pour que Dieu ne les traite pas conformément à leur folie. C'est hallucinant. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi consiste cette folie? En quoi les amis de Job n'ont pas parlé de Dieu correctement? Alors là, les avis des commentateurs bibliques divergent, on va dire. Mais j'aimerais quand même essayer de synthétiser l'essentiel de leurs avis. Dans quel sens les amis de Dieu n'ont-ils pas parlé de Dieu correctement? En quoi consiste leur folie? Je crois que premièrement, les amis de Job n'ont pas parlé de Dieu correctement dans le sens où, contrairement à Job, vous avez remarqué que Dieu contraste l'attitude des amis de Job avec Job lui-même, d'accord? C'est très important. Dans le sens où, contrairement à Job, ils n'ont pas parlé à Dieu. Et j'insiste sur l'importance de cette petite préposition. Les amis de Job n'ont pas parlé à Dieu. Que font les amis de Job pour consoler leur ami à partir du chapitre 4? Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Dieu. Il parle de Dieu. Que fait Job au milieu de sa souffrance? Dès le début, il parle à Dieu. Directement. Il se plaint, c'est vrai. Il fait des reproches à Dieu, c'est vrai. Il pousse mémé dans les orties, c'est vrai. Mais dans le cadre d'une relation personnelle, sincère, authentique, vraie, il lui parle. Il parle à Dieu. Ce qui me fait vous poser cette question, la plus grande folie peut-être, ne consisterait-elle pas au milieu de nos souffrances? Écoutez bien, la plus grande folie ne consisterait-elle pas finalement au milieu de nos souffrances à ne pas parler à Dieu, à ne pas le prier, à ne pas oser lui dire tout haut ce que nous pensons tout bas et ce qu'il sait de toute façon en tant que Dieu omniscient, à prétendre que tout va bien alors que tout va mal, à parler de lui de manière théorique, comme une formule mathématique, le principe de rétribution. Vous comprenez? Premièrement donc, les amis de Job n'ont peut-être pas parlé correctement de Dieu dans le sens où ils n'ont pas parlé à Dieu directement. Et la plus grande folie consiste à ne pas parler à Dieu, mais à parler de Dieu. D'accord? Deuxièmement, dans le sens où, selon leur raisonnement, le principe, la théologie de la rétribution, Dieu ne permet pas aux hommes de souffrir injustement. Vous vous rappelez? Dieu ne permet pas aux hommes de souffrir injustement. Il ne permet pas qu'un innocent souffre. Il ne permet pas qu'un châtiment immérité soit infligé à un innocent. Ben, Dieu n'est pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et si ça se passe, ben ça gâche un peu le paysage moral de l'univers. Ça remet en question la façon dont Dieu fait son job. Ça remet en question la façon dont Dieu gère le monde. Et par ses conséquences, sa justice. Dieu ne permet pas qu'un innocent souffre injustement. C'est pas possible, Dieu n'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas de place pour la souffrance injuste, si l'on en croit ce que disent les amis de Job. si cette conception de Dieu est juste, ça ne se voit pas peut-être, je suis en train de trembler. Si cette conception des amis de Job est juste, s'il n'y a pas de place pour la souffrance injuste, je suis en train de trembler. Vous savez pourquoi ? Parce que si un jour, dans sa souveraineté, Dieu n'avait pas permis qu'un innocent, qu'un juste souffre, meure injustement, il n'y aurait pas de pardon possible pour vous, pour moi, pour nous aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'évangile, pas de bonnes nouvelles. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Si Dieu, dans sa souveraineté, n'avait pas permis que son Fils, le Seigneur Jésus, le juste, l'innocent par excellence, souffre injustement, à la place des injustes, des coupables que nous sommes, que je suis, nous serions encore sous le poids de nos péchés. Il n'y aurait pas de pardon possible. La croix sur laquelle Jésus a été condamné, à votre place, à ma place, cette croix sur laquelle Jésus a été condamné, parce qu'il portait le poids de nos péchés, est en effet le moyen que Dieu a utilisé dans sa souveraineté pour nous offrir gratuitement le pardon à nous qui en avons besoin, le pardon à tous ceux qui se repentent, qui changent de pensée, qui changent d'attitude et qui placent leur confiance en lui. Alors que dire à ceux qui souffrent finalement ? Que dire ? Peut-être ceci, que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, a souffert par amour pour nous, et qu'il n'est pas indifférent à nos souffrances, pas du tout. Ayant lui-même souffert, il est capable de compatir et nous invite à lui parler, à nous approcher de lui, pour trouver le réconfort dont nous avons besoin. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous vivons dans un monde complexe, frappé de péchés, qui ne se résume décidément pas à une formule mathématique. Merci pour la sagesse de ta parole, qui nous aide à vivre dans ce monde conformément à ta volonté, Père. Si nous sommes un jour confrontés à la souffrance, notre propre souffrance, ou celle des autres, aide-nous, nous t'en supplions, à être à la fois très prudents, et lucide, aide-nous à ne pas commettre les mêmes égarements, les mêmes erreurs des amis de Job. Remplis-nous de ton esprit, de ta sagesse, pour que nous ayons les mêmes sentiments, le même amour, la même compassion que le Seigneur Jésus en nous. Et c'est en son nom que nous prions et pour sa gloire. Amen. Merci de votre attention. Pas de place pour les questions, j'imagine. Enfin, on pourra en parler plus tard, si vous voulez. Des questions ? Aude. Voilà. Donc ta question, c'est ne pas forcément se remettre en question si quelque chose de mal nous arrive. Ouais. Comment faire la part des choses ? Autrement dit, quand quelque chose de mal nous arrive, est-ce qu'on est responsable directement de ce qui nous arrive ? Pas du tout. C'est une question délicate, c'est une question à laquelle peut-être on est... Ouais. Oh, en tout cas, on est peut-être bien placé, examinons notre cœur, quoi, à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que nous vivons conformément à sa parole dans un domaine spécifique de notre vie? J'attire votre attention sur certains passages de la Bible qui nous laissent à penser qu'il y a quand même une certaine corrélation entre le péché et la souffrance. Ça ne veut pas dire que tous les péchés sont les conséquences directes. Que toutes les souffrances, sont les conséquences directes d'un péché, mais certains passages nous invitent simplement à faire preuve de prudence, quoi. Il y a le passage dans 1 Corinthiens, notamment, qui nous font simplement réfléchir. S'il n'y a pas d'autres questions... Non, ok, pardon. Oui, Yvan. Deuxième question et dernière question, désolé. Là, pour moi, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on est juste qu'on va souffrir là. C'est parce qu'on est chrétien qu'on va souffrir. Et c'est peut-être ce qui arrive à Job d'ailleurs. Tu vois, la souffrance n'est pas du tout la conséquence d'une faute. Au contraire, c'est parce qu'on est chrétien et que Jésus nous avertit que quand on est chrétien, on peut souffrir qu'on va peut-être être persécuté. Je pense que le raisonnement est inverse. On peut s'attendre à des souffrances en tant que chrétien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est chrétien. Et c'est ce que dit notamment le livre d'un Pierre. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont chrétiens. Notamment. Je suis désolé, je suis conscient du temps. Je laisse la place à... Yvan, on pourra en reparler peut-être ? Dernière question. Sinon, si ça vous intéresse, j'ai sur cette question de relation entre péché et souffrance, je fais confiance à des gens beaucoup plus capables que moi qui ont réfléchi beaucoup plus profondément à la question, notamment Don Carson, qui a un livre, a écrit un très bon livre qui s'appelle How Long, O Lord, jusqu'à quand, merci beaucoup, et il développe différentes thèses, et c'est vraiment très intéressant, je les ai notées, si ça vous intéresse, je peux vous les donner, je les ai synthétisées, d'accord, donc venez me voir, je peux vous donner ça, on peut en discuter même. C'est très intéressant ce que dit Don Carson sur ce sujet. Mais globalement, c'est de lui que je tiens le fait que les souffrances ne sont pas nécessairement. Ah, plus Johan en audio. Le livre, tu veux dire ?
Non, des conférences.
Des conférences. Ouais, d'accord. Mais encore mieux. Ok. Merci beaucoup. Merci. À demain.